Qui est le numéro 1 ?
Radio Z.
Attention, vous entrez dans la
Radio Z
dimension.
Bonjour, bienvenue sur Radio Z. Il fait beau dehors, mais excusez-moi, j'ai la voix grippée. J'espère que je ne vous la passerai pas à votre tour. Il y a des sujets plus importants aujourd'hui. Alors, on va parler notamment de l'euthanasie, de la PMA et des Big Hugs, la journée des câlins, pour terminer par une note positive. Et allez, c'est parti!
Oui, ben bonjour, c'est moi qui me charge du point actu cette semaine. Donc je vous ai sélectionné trois informations différentes. La première, c'est le fait que plusieurs soutiens du président de la République protestent et se rebellent contre la fermeté de la prochaine loi sur l'immigration. Alors je vais demander à mes amis autour de la table si eux aussi ils protestent ou s'ils sont plutôt d'accord avec le président. Le deuxième sujet qu'on va aborder pour le point actu, c'est les états généraux de la bioéthique qui se déroulent en ce moment sur différents sujets, comme l'a dit ma camarade, donc sur l'euthanasie ou la PMA. Et ensuite, la dernière nouvelle positive, c'est que le 22 janvier, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'était la journée mondiale du câlin. Alors, on va commencer par la première question. Est-ce que, donc, autour de la table, vous aussi, vous avez envie de protester contre la nouvelle loi sur l'immigration et sur le traitement des migrants en général dans notre pays? Est-ce que quelqu'un a envie de réagir?
Alors, moi, je n'ai pas tellement saisi cette nouvelle loi, de quoi elle était. Mais je sais que les migrants en France peuvent avoir leur place chez nous, en France. C'est-à-dire qu'ils ont des qualités. Ils ont la valeur de savoir fabriquer les tissus afro-africains. Ils ont la valeur de savoir fabriquer, coudre des robes africaines. Ils ont aussi une valeur, travailler le bois comme ils travaillent l'ivoire. Et c'est pour ça que toutes ces personnes peuvent s'insérer et devraient s'insérer avec des formations et des débouchés. Moi, je crois qu'ils peuvent nous apporter beaucoup, et notamment un nouveau marché afro-français. C'est tout.
Oui. Alors, ce sont les migrants qui sont, je veux dire, installés en France, certainement depuis longtemps, avec leur famille, et qui se sont installés en France. Par contre, le problème des migrants actuels, notamment ceux qui sont sur Calais, c'est qu'ils ne veulent pas rester en France. Ils veulent aller en Angleterre pour trouver du travail, ou parce qu'il y en a certains qui ont déjà une famille par là. Et en fait, ils sont dans une impasse quand ils arrivent à Calais, parce qu'en Angleterre, on ne veut pas d'eux. Alors ils stagnent à Calais, et ce ne sont pas, là dernièrement, ce ne sont pas des familles, ce sont des jeunes adolescents. Alors comme il n'y a plus le camp, il n'y a plus la jungle, donc ils mettent des campements un petit peu sauvages un peu partout. Alors c'est vrai que c'est pas... Enfin, je veux dire, ça devient gênant, parce que moi j'ai habité 2 ans dans cette ville, et ça devient une ville morte. Les commerces ferment, les maisons se vendent, et dans les rues, vous voyez des groupes de jeunes ados, de jeunes adultes, notamment des Ivoiriens et d'autres ethnies qui, en fait, quelquefois se battent entre elles parce qu'ils viennent de pays dans lesquels, justement, ils se battent là-bas. Et c'est pareil. Donc, je suis d'accord avec ce qu'Agnès disait. Ça, c'est pour la tolérance et pour les gens qui veulent s'intégrer et tout. Ça, je pense que c'est déjà fait. Ceux qui veulent rester, trouver un travail ou faire partager leur culture, ça existe déjà. Hein. Mais pour ce qui est actuellement à Calais avec les migrants, c'est une autre histoire. Maintenant, la loi, je ne sais plus exactement ce que le président a pondu. Mais si tu peux un petit peu m'éclairer, Guy.
Alors, il parle surtout de circulaires qui cherchent à organiser le recensement administratif dans les centres d'hébergement d'urgence, au risque de décrédibiliser le travail des associations et au mépris du principe d'accueil inconditionnel qui devrait seul régir ces sanctuaires. Oui. C'est plus un accueil, enfin ça va vers oui. plus un accueil qui est inconditionnel en fait.
Voilà, mais plus, c'est peut-être un petit peu mieux aussi parce que il y en a quelquefois, enfin moi j'ai vu quand ils montaient à une dizaine sur les voies rapides pour dès que les camions étaient arrêtés, sauter dans les camions. D'un autre côté, les CRS les faisaient tomber. Il y a même un jeune migrant qui était monté dans un camion, dans les caisses de marchandises. Oui, oui. Le camion a été accidenté, le jeune est mort écrasé dans ce camion. Il y a beaucoup de choses.
C'est une histoire tragique que vous nous racontez là.
Oui, mais et ceux qui s'accrochent dessous le camion pour passer, c'est que des choses tragiques qui arrivent. Alors je pense que le fait d'essayer de régulariser, c'est un peu aussi leur sauver la vie, d'une certaine façon.
Qu'est-ce que tu voulais rajouter, Sybille ?
Oui, il y a une photo qui avait marqué les esprits. C'était un bébé, qui a quasiment un nouveau-né. Qui avait la tête dans l'eau et il faisait partie des migrants. Voilà. Il était abandonné comme ça.
Ouais, non, mais ça fait beaucoup de polémiques. C'était sur une plage. Il y avait donc, je ne sais plus, il y a eu des.
Heureusement qu'on parle de la journée des câlins après. Hein,
des bombardements ou je ne sais pas quoi.
Attendez,
c'était les migrants qui partaient sur des barcasses. Alors en plus, dans ces cas-là, ils sont exploités par les passeurs qui leur font payer des milliers d'argent. Mmh. Et puis finalement, dès qu'il y a un problème, ils sont abandonnés, les barques coulent. Et c'est à la suite de ça qu'il y avait eu cette image d'un enfant sur une plage. Et qui avait été exploité, démonté, remonté, un petit peu n'importe comment, quoi. Après, les migrants, qu'on voit à Calais, mais après...
Moi, ce que je supporte pas, c'est que... Enfin, pour les Français, ce qui est difficile, c'est qu'il y en a... Ils font des demandes pour des HLM, par exemple. Il leur faut des années et des années pour avoir un HLM.
C'est vrai
qu'il
y a ici, vous trois
et
ans.
Pour les migrants, on leur donne la place tout de suite.
Non, on leur donne la place dans des centres, en fait.
Moi j'ai déjà vu là où ils logeaient. C'est très...
Ouais, mais est-ce qu'il faut forcément opposer des misères?
Non, mais par contre, je trouve que ce qui est vraiment injuste, c'est la façon dont on les traite. Vraiment, on les traite même pas comme des êtres humains. C'est même pas du bétail. C'est de la maltraitance, de la méchanceté gratuite, mais en même temps, comment faire?
Justement, peut-être que la loi qui va réglementer un peu tout ça, ce sera peut-être quand même une bonne chose. Après, alors, c'est sûr que sur le côté, il y a toujours des...
Ils vont avoir droit à des allocations
Touche de l'argent tous les jours. Ils
touchent quand même une petite somme.
Ah, 40 euros par jour.
Mais il faut qu'ils se fassent...
Combien tu dis,
40 euros par jour.
Oui. 40 euros par jour.
Mais il faut qu'ils se fassent recenser à la préfecture. Il faut qu'ils aient un papier, un avis de situation.
Voilà. Ils ont une carte qui leur permet de retirer 40 euros par jour.
Okay.
Alors que celui qui est français, qui a travaillé toute sa vie et qui est pensionné de retraite, gagne moins qu'eux, qui sont venus.
Mmh. Ils n'ont jamais... 3 000 euros, les artisans par exemple.
Voilà.
Après, ils ont tous leur téléphone.
Voilà, ils ont leur téléphone, ils ont tout ce qu'ils veulent.
Il faut qu'ils aient les baskets, moyen d'acheter le téléphone, d'acheter les cartes.
Voilà. Donc il y a aussi...
J'ai vu des émissions aussi où ils montraient il y en avait qui montraient des matelas de survie qui étaient de mauvaise qualité. Ça, au rien, c'était pareil. Donc ceux qui tombaient à l'eau, il y a tout un commerce qui s'est monté autour. Hein, je dirais qu'il y a des gens qui s'enrichissent là-dessus. Moi, je trouve ça.
C'est un problème qui remonte quand même à plus de 50 ans. Il y a toujours eu des migrants à Calais. Il y avait eu Sangatte qui était un essai de les contenir, de les répertorier. Et M. Sarkozy a fait fermer ce centre sans rien proposer à la suite. Et puis après, ça a été la jungle. Alors moi, j'y suis allée, j'ai été trier des vêtements, faire des sacs de premier secours, faire à manger. Et en fait, c'était devenu une espèce de bidonville comme il y en a un peu au Brésil. Parce que là, quand ils ont voulu tout démolir et faire partir tout le monde, il y en a qui tenaient carrément un commerce. Hein. Ils allaient acheter leurs produits dans les grands magasins, et puis revendaient à leurs compatriotes. Et eux, ils n'avaient pas envie de s'en aller parce qu'ils s'étaient enrichis comme ça sur le dos de...
Oui, oui, comme je dis, Sybille, il peut y avoir des gens qui profitent de la situation de manière malsaine.
Puis après, j'avais vu un reportage, c'était en Grèce, moi, que j'avais vu ça, où ils vendaient des barques qui ne tenaient pas la route, des gilets qui ne valaient rien non plus... Et il y avait les épiciers qui étaient ravis parce que, justement, comme ils avaient faim, dès qu'ils avaient un peu d'argent, ils allaient acheter là-dessus. Et je trouve que c'est un peu se moquer du monde de se faire de l'argent sur la misère humaine, quoi.
Et dernière question avant de passer au deuxième. Qu'est-ce que vous penseriez du fait de les aider plutôt à pouvoir rester chez eux ? En investissant dans leur pays.
Alors, on peut toujours les former pour notre armée et envahir l'Afrique avec nos migrants.
Non, mais ce que je trouve pas logique, c'est qu'on voit arriver les migrants, la plupart, c'est que des hommes.
Oui.
Les femmes et les enfants sont restés au pays et les hommes qui sont censés défendre leur pays s'en vont, fuient leur pays. Donc, quand moi je vois, j'habite la Trinité, et ils descendent tous de la Guée, et ils me demandent tous où est la direction de Nice. Oui, par groupe de 3-4 personnes. Quand je promène mon chien, régulièrement, il me demande où c'est Nice, où c'est qu'on peut prendre le bus pour aller à Nice, et ils descendent de la Guée. Donc, il y a des trafics qui se font encore, et ça continue, quoi.
Moi, j'ai fait connaissance avec une dame lors d'un voyage qui travaillait à Burkina Faso. Et elle aidait les gens à construire des hôpitaux et à construire des écoles, mais de façon à ce que, pour leur rendre le plus autonome possible. C'est-à-dire que c'est pas elle qui faisait le travail. Elle était là pour les aider à
c'était un peu là où je voulais
autonomie. En
dire. Oui. Ok.
Et ça, je trouvais ça très bien.
Alors bon, mais super. Je vois qu'on a plein de choses à raconter sur ce sujet-là, mais le temps avance. Alors on va passer à la deuxième au deuxième thématique. Donc les états généraux de la bioéthique. Alors, bon, il y a plein de sujets qui sont abordés dans cette réunion. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais les deux peut-être que les deux que j'ai retenus, c'était faut-il ouvrir l'euthanasie à plus de personnes et la question aussi de la PMA, procréation médicalement assistée. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui a envie de réagir sur l'un de ces deux sujets ?
Oui.
Sybille, on écoute Sybille.
Moi, personnellement, j'ai une maladie. Il y a des fois, j'aimerais bien que l'euthanasie soit autorisée en France. Je sais que c'est autorisé en Suisse. Mais je me retrouve avec une maladie, ce qui fait que je fréquente les hôpitaux psychiatriques depuis l'âge de 15 ans. Donc j'en ai un peu ras-le-bol. Et j'aimerais. Des fois, je me dis que ne le feront pas parce que ma maladie n'est pas suffisamment importante. Je ne suis pas complètement invalide et tout, mais il y a des fois, je reste dans mon coin et je suis complètement. Complètement désespéré, déstabilisé, à ne plus pouvoir rien faire, c'est la période que je traverse, par exemple, en ce moment. Et des fois, j'aimerais bien qu'on en finisse avec ça, ouais. Franchement, oui.
Et d'une manière générale, avec cette idée-là, tu verrais ça comme une avancée, toi, dans...
Pour moi, ouais. Okay.
Ben, il y en a, moi, je trouve, qui sont dans des comas, qui sont mis dans des comas, ou qui sont dans des comas depuis des années, qui ont les électros plats, quand on dit qu'ils sont branchés, que s'il n'y a pas de branchement, ben, ils meurent automatiquement. Donc j'estime que c'est perdre du temps pour les familles de voir s'enfuir leurs enfants, ou leur mari, ou leur femme, ou ainsi de suite. Ça coûte des sous à la sécu, en plus, parce que...
Ah bah oui, l'hôpital, hein, c'est 400 euros par
jour. En plus,
hein.
Quand on sait que des gens qui sont alités comme ça, il faut qu'ils soient tournés toutes les demi-heures pour pas qu'ils aient des escarres. Donc si c'est pour en plus aggraver la situation du patient, j'estime que si vraiment tous les éléments sont mis bout à bout et qu'on dit vraiment celui-là, il n'y a plus d'espoir, j'estime que ce serait très bien pour eux, quoi. Parce qu'on peut le faire avec les animaux, on a le droit de le faire euthanasier quand ils sont malades, qu'on ne peut plus rien faire pour eux. Donc, je ne compare pas l'animal avec l'être humain, mais on a réussi à le faire pour un animal vivant.
Oui, oui, oui.
Donc, j'estime que quand il n'y a vraiment plus d'espoir, quand vraiment il n'y a plus d'espoir possible, ça ne sert à rien d'insister, de les assister entubés, perfusés, trachéotomies, tout ce qui s'ensuit, quoi.
Vous voyez plus l'intérêt, quoi, à ce moment-là.
Non. C'est des expériences qu'ils font sur les êtres humains pour savoir s'il y a un nouveau produit à tester, on va tester sur lui, comme ça, s'il réagit, mais alors qu'il sera, il n'y a plus rien à faire, quoi.
Alors, moi, je voudrais réagir sur le témoignage de Sybille. Sybille, on ne veut pas te tuer, s'il te plaît. On veut que tu restes avec nous. Et quand on écoute ton témoignage, on se dit, ben, si c'est ce que pensent certains Français, c'est un choix auquel ils ne doivent pas avoir accès, c'est-à-dire voter contre l'euthanasie.
Donc toi, tu mets un bémol. Toi, t'es pas pour parce que t'aimes tellement Sybille que tu veux pas qu'elle s'en aille.
Voilà, c'est voilà.
Merci, c'est gentil, mais non, mais c'est pas par rapport à des tentatives de suicide. C'est qu'à des fois, je me retrouve dans des situations où je suis complètement figée, où je me laisse faire, où j'arrose tout le monde.
Et en même temps, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça, ce qu'Agnès vient de nous dire?
Bah, ça fait, je trouve ça gentil, mais ça me...
Ça sert à rien.
Mais ça ne change pas le fond de la pensée. Et l'euthanasie est autorisée en Suisse, et j'estime qu'elle devrait être autorisée en France aussi, quoi. Et oui, surtout pour des gens qui
sont en difficulté depuis très longtemps.
Qui sont en difficulté depuis très longtemps, on sait qu'ils ne s'en sortiront pas. Moi, par exemple, quand je parlais de mon cas personnel, mais il y a des cas qui sont beaucoup plus graves encore que le mien. Mais quand on vous dit que vous avez une maladie, que cette maladie, on peut la soigner, mais qu'on ne peut pas en guérir, pourquoi rester en vie, quoi? Moi, j'en ai marre de passer ma vie dans les hôpitaux.
Eh ouais, ma doudoune, mais... Courage, chevalier Jedi.
Complexe. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter? On peut passer sur le dernier sujet, qui est donc le 22-01, journée mondiale du câlin. Alors, moi, ce que je vous propose pour cette partie-là, c'est qu'on a Agnès qui nous a préparé une chronique sur l'optimisme. Je trouve que c'est un peu en lien avec l'idée de câlin, donc
alors,
je vais laisser Agnès...
l'optimisme... Jacques Lecomte, auteur et conférencier, est venu à Nice professer ses leçons de bonheur lors d'une conférence. Qu'est-ce que le bonheur? Pour vous, définiriez le bonheur comment? Si vous aviez
des petites joies qu'on a, des petites joies qu'on peut avoir.
Ouais, le bien-être.
Un bon plat de pâtes carbonara devant moi, avec un tiramisu, café.
Il y a un sentiment de bien-être en dépit de l'environnement.
Oui, oui.
C'est ça, le bien-être. Sentiment et satisfaction passagers. Au sein de l'existence, notion plus profonde faisant référence à la philosophie de sa vie. Or, donner du sens à sa vie, c'est être optimiste, tourner vers les autres. Être optimiste, un facteur de bonheur. Oui, car cela permet d'aller de l'avant, alors que le pessimisme génère de la tristesse et même mène à l'immobilisme. Sauf qu'en France, parler d'optimisme, c'est passer pour être un doux rêveur, un naïf, un bisounours. Les Français broient du noir, bien plus que les Irakiens et les Afghans pourtant en guerre. Donc les Français, ils se plaignent tout le temps qu'ils sont malheureux.
Ouais, mais c'est pas.
C'est pas comparable.
Les Français, plein qui sont malheureux peut-être, mais quand on va dans des pays du Nord où notamment à la Norvège, au Danemark, où ils ont pas de lumière pendant des jours entiers.
Pendant six mois de l'année, ils ont
pas
de
lumière. Ils ont pas de lumière et ils sont obligés de faire de la luminothérapie. Pour se donner des bonnes idées. à Nice, on a de la chance d'avoir beaucoup de lumière, et c'est ce que ça attire beaucoup d'artistes d'ailleurs, beaucoup de peintres. Mais ça doit être dur de vivre dans le noir pendant des années, et c'est là-bas qu'il y a le plus de suicides, quoi.
Alors ici, Jacques Lecomte, il estime le bonheur donc avec deux points, c'est le bien-être, sentiment de satisfaction passagère, mais aussi du sens à sa vie. Le sens à sa vie, pour Monsieur Lecomte, c'est justement cette philosophie où on se tourne vers les autres.
Il dit beaucoup que c'est dans le fait d'être en lien avec les autres qu'on trouve le bonheur,
c'est
lui,
ça,
non?
C'est ça. Alors, comment cultiver l'optimisme? Moi, regarder les journaux télévisés.
T'as un journal dans les mains, là.
Hein. En mettant les mauvaises nouvelles, ils nourrissent le pessimisme ambiant. Il faut se focaliser sur la bonne chose qui marche. S'intéresser aux autres, œuvrer au sein d'associations, prendre part à des actions, bouger pour les autres, aider autrui, transformer des vies, cela fait du bien. Et tout cela génère de l'optimisme. La méditation. Méditer sur soi-même débouche sur un bonheur égoïste et guère durable à mon sens. Car on ne peut pas être heureux tout seul. Pour atteindre le bonheur, il nous faut réunir le cœur, la tête et les mains. Le cœur, pour les relations affectives que l'on noue avec ses proches, celles qui donnent sens à la vie. La tête, pour les valeurs, les convictions que l'on porte en nous Et la main, pour l'action, l'altruisme. Méditer, bien, mais en pensant aux autres. Car les enfants en sont plus positifs. En termes d'estime de soi, de bien-être, de santé aussi. Car les études ont démontré que l'altruisme des seniors est une source de longévité. Alors, si vous ne voulez pas vieillir, avoir de rides, il y a mieux que les crèmes, il y a l'altruisme. Ceux qui sont engagés dans des associations vivent mieux et plus longtemps. Parce que s'intéresser aux autres, s'ouvrir sur le monde, génère de la confiance, une bonne image de soi-même. C'est l'effet psychosomatique qui apporte du bien-être. L'autre effet est plus pragmatique. Plus vous êtes en lien avec la société, plus vous êtes entouré pour faire face aux incidents de la vie. Merci, Monsieur Jacques Lecomte.
Merci Agnès pour ce partage et cette petite bulle de bonheur dans cette émission.
Moi, je pense que les gens qui travaillent dans les associations, enfin comme vous quoi, c'est parce que ça leur apporte quelque chose. Ils ont besoin. Et ça leur apporte quelque chose à eux-mêmes aussi.
Ils œuvrent pour une cause, mais en fait, ils s'occupent d'eux-mêmes aussi en faisant ça, parce que ça leur donne du sens à leur vie.
Oui.
Oui, d'ailleurs, souvent, les gens qui œuvrent dans des associations, ils œuvrent pour quelque chose qui les concerne, souvent. Est-ce que une autre personne a envie de réagir à l'article d'Agnès, ou est-ce que vous voulez... réagir par votre chronique aussi.
Oui, voilà, je vais aller un petit peu dans son sens. Alors, je vais d'abord commencer par une petite question. Alors, est-ce que vous savez quelle est la partie de notre corps qui est composée de 30 muscles?
Le cerveau.
Le sourire.
Ah, exact.
Le visage, oui.
Bravo. Seulement, on n'en utilise que 17. Et ces 17
même
muscles...
si on sait faire bouger ses oreilles.
Mais le plus souvent, on en utilise 17 quand on sourit. C'est les fameux zygomatiques. Alors, 7 ans d'expérience de vie en plus, peu de médicaments peuvent se vanter d'un tel bénéfice. Des chercheurs en psychologie ont étudié les photos de 230 joueurs de la Ligue de baseball des années 50, âgés alors d'une trentaine d'années, et les ont classés en fonction de l'intensité de leur sourire. Le constat fut le suivant. Ceux qui souriaient largement vécurent 7 ans de plus que ceux qui affichaient un visage neutre et maussade. Le sourire n'exprime pas simplement un sentiment de bien-être, mais il assure aussi clairement une meilleure santé. L'impact mesuré sur la longévité n'est que le résultat d'une succession d'effets positifs. En effet, le cerveau évalue notre humeur à partir de l'utilisation de nos zygomatiques. À l'IRM, on observe que l'activation de ces muscles stimule des régions cérébrales associées à la satisfaction, ce qui active le circuit de la récompense lié au plaisir. Donc, si l'on sourit, le cerveau en déduit que nous sommes en train d'éprouver un sentiment de bien-être, ce qui entraîne une baisse du niveau du cortisol, qui est l'hormone de stress, et le sourire libère des endorphines, des hormones du bien-être. Les psychiatres ont constaté que les patients qui avaient une tendance naturelle à sourire sortaient plus rapidement d'un épisode dépressif. Le fait de sourire réduirait donc la perception de la douleur. Et un quart d'heure de vrai rire augmenterait de 10% notre seuil de tolérance à la souffrance. Attention, le sourire n'est pas toujours synonyme de bonheur. Il permet de transmettre grand nombre d'autres expressions. Le sourire de joie, le plus connu, celui qu'on a tous ensemble quand on est heureux. Le sourire d'affiliation qui permet de créer du lien avec les autres. On accueille les gens par un sourire, ou on les quitte aussi avec le sourire. Et le sourire de domination qui sert à affirmer son pouvoir, qu'il soit réel ou pas.
Moi, sympa celui-là.
Alors, faut-il apprendre à sourire? Non. Il faut essayer de ressentir ce qu'il y a de positif dans une situation et le sourire viendra. Et si vous amorcez volontairement un sourire, souvent vous en recevrez sans doute un en échange. C'est un premier pas vers l'autre. Évidemment, des petites rides, des ridules apparaissent petit à petit lorsque vous vous exprimez par le sourire ou si vous souriez souvent. Et le Botox, me direz-vous? Avis à ceux qui seraient tentés par l'injection de toxines botuliques. En paralysant une partie des muscles faciaux, ce produit handicape aussi les capacités de sourire. Avec du Botox, une personne peut répondre normalement à un événement fort sur le plan émotionnel, qu'il soit même vraiment très triste.
C'est quoi ça, le Botox?
Le Botox, c'est pour empêcher d'avoir les rides.
C'est une toxine botulique.
Mais alors moi, je me sens beaucoup plus... Pardon.
Oui. Alors, donc les muscles du visage bougeant moins, le cerveau recevra moins d'infos. Les personnes botoxées enregistrent une baisse significative de la force de leurs émotions. Alors là, j'ai une petite anecdote. C'est une dame. Elle ne sourit pas pendant 40 ans pour éviter les rides. Son visage est impassible. Tess Christian ne fait pas ses 50 ans. Pourtant, pas de chirurgie esthétique, pas de Botox. Afin d'avoir une belle peau sans rides, elle ne sourit presque plus depuis 40 ans. Je me suis entraînée à contrôler mes muscles faciaux. Pas de Botox, explique-t-elle. Alors, elle encourt un risque d'atrophie musculaire. Les dermatologues sont d'accord pour démontrer qu'il existe un risque d'atrophie musculaire et qu'au final, on ne pourrait plus ouvrir la bouche. On s'inquiète aussi pour la santé mentale de cette dame qui se ferme au monde extérieur et finalement, elle qui attache beaucoup d'importance à son apparence extérieure malgré ce qu'elle prétend. Voilà.
Eh bien, quand tu veux pour la chronique mystère. Hein.
Oui.
Alors,
merci.
Moi, le sourire, c'est vrai que bon, il y a 20 ans de ça, bon, j'allais dans les rêves parties, tout ça, et je gobais des acides. Et alors, j'étais prise d'une parano horrible. Et parfois, il y avait des jeunes qui venaient vers moi, qui me regardaient, qui me lançaient un grand sourire. Et alors, je leur répondais par le sourire. Et c'est comme ça que j'ai découvert que sourire, ben, ça retire la parano. Quand tu souris à quelqu'un, tu revis.
Quand tu souris à quelqu'un, et en plus quand tu reçois un sourire, voilà. Les deux en même temps.
Voilà. Souvent, ça marche.
Quand tu échanges un sourire, mais c'est génial, c'est génial.
Et ça coûte pas cher.
Et ça coûte pas cher.
Et même par.
Et puis c'est à volonté aussi.
Voilà.
Sans modération.
Donc c'est vrai que par la suite, quand je prenais un acide, je souriais, vous savez, au vent.
Je voyais les éléphants roses.
Quand j'avais le vent dans les cheveux, je souriais au vent. Ah ouais.
Et ben la journée du câlin, ça vous a fait du bien à toutes les deux là.
Ah ouais.
Bon après moi je pense que c'est pas la peine qu'il y ait une journée pour.
Ça peut être tous les jours.
Ouais, ça peut être tous les jours, ouais.
Bon, alors il nous reste à terminer par la chronique de Brigitte qui va nous parler de la faune et de la flore, c'est ça,
voilà,
des Alpes-Maritimes.
C'est ça, un peu de tous les endroits.
Alors ben, nous l'écoutons.
Voilà, alors plongeons-nous dans la nature française. Nous avons la chance d'avoir en France plein d'endroits à visiter où la faune et la flore sont à découvrir, des endroits où la nature a repris ses droits et où nous retrouvons des espèces presque disparues. On peut voir que dans la forêt de Ferrières, Île-de-France, dans les années 1970, les sables de la Ferrières ont servi à la construction de l'autoroute voisine. Aujourd'hui, ce site est protégé, présente plusieurs mares limpides qui accueillent le Héron cendré ou la Bécassine des marais. À la pointe du Groin, dans le sud, vers le baie de Saint-Michel, on peut observer une des superbes vues qui s'offre aux promeneurs et sur les barres du sable à marée basse. Les phoques marins qui fréquentent cette base viennent prendre le bain de soleil ou allaiter leurs petits.
Tu parles de Saint-Michel en Bretagne.
En Bretagne, oui. Il y a des phoques qui viennent faire le bain de soleil et allaiter leurs petits sur les marées basses.
Qui ça?
Les phoques.
Des phoques? Ah ouais.
Des phoques, il y en a de plus en plus, mais il y en a dans la Somme.
Oui.
Ah, génial. Ça doit être drôle.
Dans les Landes, dans le Cap Réel, sont le site le plus emblème que les plus visités des falaises rocheuses bretonnes. Les sentiers menant au Cap sont souvent d'ajoncs, de bruyères et d'harmonies marines. Cette végétation est néanmoins fragile et ne doit pas être piétinée à côté du Cap. Elles accueillent au printemps des colonies d'oiseaux de mer, comme celles qui guillonnent le Troyes, des pigeons tonda, les mouettes triodactyles. On peut retenir que dans la forêt de Bercé, dans les pays de la Loire, sont exploités plus beaux chênes qu'à l'âge de 240 ans. Dans la Poitou-Charente, dans Saint-Hilaire de Pelade, on peut observer les navigants sur les canaux fossés, convertit plus de 10% des 1600 hectares de l'ensemble des marais mouillés, s'épanouit d'une forêt alluviale constituée d'innombrables frênes, saules et peupliers. Les randonnées en barque sont l'occasion de s'immerger dans la nature. Plus de 70 espèces d'oiseaux peuvent être observées le long du canot.
C'est où Poitou-Charentes? C'est où ça?
Charentes-Poitou-Charentes.
C'est dans quel coin?
C'est dans le nord.
Et dans le nord, il y a des frênes et du frêne et du peuplier.
Oui.
Et les peupliers, c'est un arbre très, très fragile qui a toujours besoin de chaleur, qu'on oblige, lequel on entoure de tissu ou de je sais pas quoi, le tronc. On entoure son tronc l'hiver pour pas qu'il meure, parce qu'il prend un coup de froid. Et...
Ouais. Bah non, c'est... On le plante surtout où il y a de l'humidité parce que ses racines,
elles boivent beaucoup d'eau.
Oui, elles boivent
beaucoup. Le peuplier ? Je sais pas.
Après, on a les côtes de Pertuis, c'est la route des huîtres marraines d'Orléans. Il y a le plus grand bassin d'ostréicole d'Europe. Il y a 5 900 hectares, très riche en plancton. Ils nourrissent plus de 100 000 tonnes d'huîtres. Et après, nous avons l'étang de Berne, avec ses 2300 hectares de Berne sur place, parmi les régions d'étang les plus importantes de France, avec pisciculture encore vivace, environnement des bois, de landes et des prairies. C'est un plan d'eau qui attire de nombreuses espèces d'oiseaux, qui a voulu territoire plusieurs labels réservés naturels, parcs naturels régionaux.
Voilà. Alors, bien...
Bravo.
Alors, comme tu parles des animaux, je voudrais faire un coucou à nos amis russes qui, ont comme patrimoine les ours polaires, les loups blancs, les renards blancs, et qui sont en train de mourir à cause du réchauffement climatique. Si on pouvait avoir combien, tu m'as dit, d'hectares pour les huîtres, là?
Les huîtres ont 5 900 hectares.
Alors, si on pouvait transmettre 5 000... hectares dans sur un iceberg réfrigéré pour nos animaux.
Et il y a 100 000 tonnes d'huîtres. 100 000 tonnes d'huîtres. C'est impressionnant quand même. Hein, pour pour une surface pareille. Bon,
amis auditeurs, si vous avez besoin de conseils pour voyager en France à la découverte de la faune et de la flore, demandez Brigitte de Radio Z.
Voilà, ce serait un plaisir de vous répondre dans les prochains épisodes.
Ah, je voulais demander, est-ce que les auditeurs peuvent réagir sur Internet?
Ah, ah, c'est oui, une... Ils peuvent laisser des commentaires. Et on peut aussi les inviter à venir écouter une émission et à réagir en direct, entre guillemets.
Et pourquoi vous n'en avez jamais écouté, Laura?
On l'a fait deux fois. Mais est-ce que tu es en train de dire que tu aimerais qu'on le refasse une fois?
Moi, eh bien, allez. Hein.
Eh bien, écoutez. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter sur ce qui a été dit
Non, on n'a pas parlé de la PMA, en fait.
Ah, ce sera l'objet d'une autre émission, d'une prochaine émission. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Merci à tous les chroniqueurs et participants et spectateurs aussi d'avoir été présents. On espère que ça vous a plu et on vous souhaite une bonne semaine. Et on vous dit à la semaine prochaine sur
Radio Z.
Bien sûr.
Très bien. Bravo, bravo, bravo.